grand angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, votre grand angle hebdo, l'actualité de ces 7 derniers jours. Le sommaire, un anniversaire et des questions, quelle direction pour la Syrie? Les espoirs des Syriens ont-ils commencé à se concrétiser un an après la chute du régime Assad? L'autrice et journaliste Garance Lequen s'est rendue 4 fois en Syrie depuis sa prise en main par Ahmad al-Sharif. L'autrice de Opération César au cœur de la machine de mort syrienne sera l'une de nos invitées. L'impact de la coopération entre la France et l'Algérie après la condamnation par la justice algérienne du journaliste sportif français Christophe Glaise à 7 ans de prison ferme. Nous y reviendrons avec l'ex-ambassadeur de France pour la Méditerranée, Karim Amelal. C'est un pays qui subit des enlèvements à grande échelle, les rapts de masse au Nigeria. Une centaine d'écoliers enlevés le mois dernier dans une école catholique du pays sont de retour dans leur famille. Qui sont les auteurs? Quelles sont leurs motivations? Nous écouterons Sedi Kaba. Il préside le Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. C'était mardi dernier, le 120e anniversaire de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Regard dans votre journal sur le contexte historique et politique lors de sa naissance avec le président du Parti radical de gauche, Guillaume Lacroix. C'était lundi dernier, le premier anniversaire de la chute du régime Assad. L'homme qui a fait tomber Bachar al-Assad, le président par intérim Ahmad al-Sharr, a promis de rebâtir une Syrie forte, digne de son passé et de son présent, selon son propos. Ahmad al-Sharr a prononcé un discours après la prière de l'aube à la grande mosquée des Omeyyades à Damas. Je vous propose d'écouter la journaliste Garance Lequen. Elle est l'autrice du livre Opération César au cœur de la machine de mort syrienne, publié chez Stock en 2015. Et dans cet ouvrage traduit en 10 langues, on trouve notamment le premier témoignage de l'ex-photographe de la police militaire qui a documenté les crimes du régime. Garance Lequen s'est rendue 4 fois en Syrie depuis la chute du régime Assad. Question, un an après la chute du régime, les espoirs des Syriens ont-ils commencé à se concrétiser? Garance Lequen.
Le plus grand espoir qui est arrivé le 8 décembre 2024, c'est la liberté, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir parler de politique, et ça, c'est toujours le cas. Ahmad al-Sharr n'a pas instauré une dictature, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent manifester, donc ça, cet espoir, quelque part, il a été réalisé. Ensuite, l'état du pays au niveau économique est absolument catastrophique. Et puis, il y a tellement, tellement de choses à faire au niveau de la justice, au niveau de la question des disparus, des fosses communes. Il y a un côté un peu vertigineux. 50 ans de dictature assadienne ont vraiment détruit ce pays, mais pas juste physiquement. Il y a des traces mentales, des traumatismes, et ça va mettre beaucoup de temps pour se résorber. La justice transitionnelle, c'est vraiment une des priorités. On a du mal à comprendre où vont les nouvelles autorités. C'est vrai qu'il y a un comité qui a été établi pour juger des crimes, mais seulement des crimes du régime syrien, alors qu'on sait que les rebelles armés ont également commis des crimes, pas dans les mêmes proportions évidemment, mais des rebelles armés et même HTS, donc l'ancien mouvement du président actuel, a commis des crimes. Regardez, ils ont créé un comité pour ces enfants disparus. C'est très bien. J'y suis allée en novembre. Ce comité qui a récupéré énormément de documentation, des orphelinats, des centres de détention où étaient ces enfants, ils n'ont pas un ordinateur. Mais c'est vraiment ça. Ils archivent à la main. Donc, vous imaginez le temps que ça peut mettre. Enfin, quand j'y suis allée, je n'arrivais pas à le croire, quoi.
L'autrice et journaliste Garance Lequen. L'impact de la coopération entre la France et l'Algérie. Après la condamnation en appel par la justice algérienne du journaliste sportif français Christophe Glaise, il est accusé d'avoir été en contact avec un responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classée organisation terroriste en Algérie depuis 2021. Mais cela dans le cadre d'un reportage sur la jeunesse sportive de Kabylie. Il lui est aussi reproché d'être entré dans le pays avec un visa touriste et non de journalistes. Arrêté le 28 mai 2024 et placé sous contrôle judiciaire, Christophe Glaize avait été condamné en juin dernier pour apologie du terrorisme en première instance à 7 ans de prison et reste incarcéré. Après la même condamnation en appel, ce mois-ci, une légende du football, Dominique Rocheteau, lui a apporté son soutien cette semaine. L'ex-ambassadeur de France pour la Méditerranée, Karim Amellal, dans une tribune récemment publiée dans Le Monde, appelle à privilégier le dialogue, le respect et le travail mémoriel à la politique du coup de force pour espérer bâtir une relation apaisée entre la France et l'Algérie. Et il revient sur Radio Orient sur l'impact de cette condamnation. Karim Amellal.
Ça va de soi qu'il faut privilégier la diplomatie, une approche apaisée, raisonnable dans ce genre d'affaires, dans ce genre de situation. L'histoire montre, et d'ailleurs l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, notamment que, comme je l'écris dans ce texte que vous avez cité, les coups de menton, les postures médiatiques, a fortiori quand cela vient servir des fins de politique intérieure, ce qui a été le cas de la posture de Bruno Retailleau, ça ne fonctionne pas. Si cette démarche-là ne fonctionne pas, il faut bien en adopter une autre qui, historiquement, a montré qu'elle avait plus de chances de produire des résultats. Les résultats ne sont pas immédiats, ils sont lents à obtenir, il faut de la patience, il faut de la modération, il faut de la constance, il faut du respect, mais au bout du compte, comme on l'a vu d'ailleurs avec Boualem Sansal, les résultats viennent.
Alors, sachant il est vrai que pour. Sachant qu'il y a eu un comité de soutien très oui. actif hein, pour obtenir la libération de Boualem Sansal. Cette activité intense de la part de ce comité de soutien a joué, selon vous, un rôle important.
C'est évidemment quelque chose d'important. Ce qui fait la différence, ce sont des manœuvres diplomatiques. C'est une approche politique. C'est ce que la France a fait avec l'Allemagne. Il a fallu passer par ce qu'on appelle en diplomatie un tiers de confiance. Les Allemands ont été ce tiers de confiance, très efficace, remarquable, et c'est ça qui a permis la libération de Boualem Sansal. Et je crois que c'est à travers ce genre d'approche, patiente, prudente, modérée, apaisée, respectueuse, bien que nous obtiendrons demain, je l'espère en tout cas le plus vite possible, la libération de ce journaliste.
Christophe Glaize, l'ex-ambassadeur de France pour la Méditerranée, Karim Amellal. Les raptes de masse au Nigeria. Une centaine d'écoliers enlevés le mois dernier dans une école catholique du pays sont de retour dans leur famille. Ils avaient été kidnappés par des hommes armés. Le gouvernement d'Abuja a obtenu leur libération et les a remis lundi aux autorités locales de Mina, dans le centre nord du pays. Fin novembre, l'association chrétienne du Nigeria a fait état de 303 élèves et 12 membres du personnel enlevés dans un internat situé dans l'État du Niger. Les autorités n'ont pas révélé comment les enfants, âgés pour la plupart de 10 à 17 ans, ont été libérés. Elles n'ont annoncé aucune arrestation. Et cette attaque s'inscrit dans une série de kidnappings massifs au Nigeria. Elle rappelle notamment l'enlèvement des lycéennes de Chibok en 2014. C'est Dikaba, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel.
C'est une économie criminelle importante qui s'est mise en place avec ses commanditaires, ces coursiers, ces démarcheurs. Cette économie criminelle s'est mise en place depuis un moment au Nigeria et elle est très lucrative pour ceux qui s'y adonnent. On remarque que pour la plupart, ces jeunes adolescents sont des élèves et des étudiants qui sont enlevés parce que ceux qui les enlèvent partent du principe que ce sont les enfants de l'État, comme on dit là-bas, puisqu'ils sont des élèves et des étudiants, que l'État va payer une rançon en échange de leur libération. Une première expérience a été faite, une deuxième, une troisième. Et puis, il s'est mis en place cette économie avec des sommes importantes qui sont réclamées à l'État fédéral et qui finalement finit par payer cette rançon à des criminels, à des bandes qui se sont organisées pour enlever ces enfants. Et du coup, comme il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt dans cette activité, que ce soit des intermédiaires, que ce soit dans les rangs de l'État, puisqu'il y a des gens qui prélèvent dans ce que l'État donne, on comprend la persistance de cet enlèvement de masse des enfants.
Et donc, il n'y a pas de motivation idéologique. Les motivations sont uniquement économiques, c'est ce que vous nous dites.
Absolument, absolument. À part dans des rares cas où vous avez bien rappelé dans le chapeau, dans le cas de Chibok, où l'enlèvement a été opéré par le groupe Boko Haram à l'époque, pour les autres enlèvements qui ont suivi, Dans la plupart, ce sont des enlèvements crapuleux, avec en arrière-plan l'appât du gain, le souci de pouvoir gagner de l'argent auprès de l'État fédéral, puisque au final, c'est l'État fédéral qui finit toujours par payer la rançon pour la libération de ce jeune Jean-là.
Sédic Abba, il préside le Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Un anniversaire, mardi dernier, les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État en France. La loi de 1905, la clé de cette loi tient dans ses deux premiers articles. L'article 1 garantit la liberté de confiance. L'article 2 affirme que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, ce qui ne veut pas dire qu'elle ignore la religion. Emmanuel Macron a mis l'accent sur la garantie de la liberté de penser offerte par cette loi. Regard sur le contexte historique et politique lors de la naissance de ce texte de 1905. Le président du Parti radical de gauche, un parti républicain et laïque, Guillaume Lacroix.
C'est une loi qui est née dans un contexte en fait d'aboutissement de la philosophie des Lumières en France, parce que vous l'avez rappelé, l'article premier prône la liberté de conscience, la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire finalement la capacité pour chacune et chacun d'entre nous, d'être libre de nos croyances, de nos pensées, de nos opinions. Et de fait, l'État a voulu permettre, garantir aux Françaises et aux Français cette possibilité. Alors forcément, dans un État qui était considérée comme la fille aînée de l'Église, comme on disait à l'époque, dans un État qui avait finalement une religion officielle, une religion d'État qui était le catholicisme, la nouvelle n'a pas été bien accueillie. Elle a d'ailleurs donné lieu à des débats parlementaires d'une grande violence. Moi, je suis toujours surpris qu'on ait l'impression aujourd'hui que la loi de 1905 a été un chemin de rose, une forme d'aspiration générale. Ça n'était pas du tout le cas. L'adoption de cette loi a fracturé sévèrement le pays, mais elle a permis depuis d'assurer à un pays qui vit dans la concorde, qui vit dans l'unité, qui vit en fait avec le respect des différences, mais l'unité nationale comme cap.
Le président du Parti radical de gauche, Guillaume Lacroix. Fin de votre Grand Angle Hebdo. Émission disponible sur les réseaux sociaux de Radio Orient, également sur votre site internet radioorient.com. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.